dans l'état d'urgence climatique.
Plus chaud que le climat.
Il faut que nous entrions en désobéissance civile.
Animé par Alternative à Nantes
et le GIGNV.
Il faut que nous menions des actions non violentes, déterminées. Plus chaud que le
climat. Résistance et alternative au changement climatique à deux pas de chez vous.
Nous allons continuer ce travail pour construire une autre société. Tout cela est à notre portée.
Bonjour, bienvenue dans la chronique Plus chaud que le climat, animée par Alternative à Nantes et le GIGNV. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement populaire, présent partout en France et dans d'autres pays d'Europe et du monde. Et on a coutume de dire qu'il marche sur deux jambes. Celle des projets alternatifs pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Ça, c'est l'affaire d'Alternativa. Et la résistance au projet climaticide afin d'interpeller aussi bien la population que les décideurs politiques et économiques sur l'urgence climatique, c'est ANV COP21, pour Action non violente COP21. Plus chaud que le climat, ça consiste en quoi ? Le climat se dérègle, alors explication, information, action, mobilisation, tout ça sans climatisation. Aujourd'hui, qui est-ce qu'on a au micro ? À la table de mixage, on a...
Au micro, la table de mixage, Luc.
Au micro noir, Pauline.
Au micro rouge, Anto.
Et au micro jaune, c'est Fred. Et ce mois-ci, on va vous parler de climat et de banque. Et ce sera aussi le premier numéro de Climat et moi et moi.
10 ans après la faillite de la banque Lehman Brothers, c'est la crise financière mondiale. Des actions contre les banques aujourd'hui à Paris ou Marseille par des militants altermondialistes.
Cette action dont parle France Inter, elle a aussi eu lieu à Nantes, menée par ATTAC et le GIGNV. Pourquoi on en est venu à faire cette action ? Il y a de vrais liens entre les banques et le problème climatique. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. Pour commencer, Anto, est-ce que tu peux nous dire simplement, une banque, qu'est-ce que c'est ?
Alors, pour faire simple, une banque, c'est l'intermédiaire entre d'une part des personnes qui ont des moyens financiers et d'autre part des personnes qui cherchent un financement. Autrement dit, en dehors de ses fonds propres, une banque dispose de ressources courantes qui proviennent des dépôts réalisés par sa clientèle. Et c'est en mélangeant tous ces dépôts, plus les comptes d'épargne de ses clients et de ses clientes, qu'elle peut alors financer des projets d'entreprise et de particuliers sous forme de prêts qu'elle leur accorde.
Donc en fait, une banque prête de l'argent qui ne lui appartient pas vraiment.
Oui, en quelque sorte, puisqu'à tout moment, elle peut devoir faire face au possible décaissement de ses clients et de ses clientes. Il y a également le risque que sa clientèle ne rembourse pas leur crédit, ce qui oblige les banques à sélectionner les projets qu'elle va financer en fonction d'objectifs de rentabilité et des capacités des emprunteurs et emprunteuses à pouvoir rembourser. Et c'est là qu'on a déjà un premier problème, car si les banques jouent un rôle qui est essentiel pour le financement de l'économie locale et des projets particuliers, par exemple si tu veux t'acheter une maison, elles font aussi de la spéculation sur les marchés dérivés, donc ça c'est un premier souci, et elles sont partenaires privilégiés des États et des multinationales. Donc on a double problème, on a d'abord un problème d'opacité, on ne sait pas ce qui est financé, il n'y a qu'une seule banque qui le fait, qui publie la liste de tous les financements qu'elle accorde, c'est la NEF. Et puis, il y a un problème d'éthique, c'est qu'on ne sait pas ce que les banques vont financer. Et en l'occurrence, il y a des opérations qui sont plus rémunératrices, mais qui ont un impact environnemental qui est beaucoup moins, qui est assez important.
Donc en fait, si j'ai un compte au Crédit Mutuel ou à la Société Générale, je ne sais pas vraiment ce que mon argent va financer. Et sans doute que ce sera des projets auxquels je n'adhère pas, qui vont avoir un impact lourd sur le climat et l'environnement.
Exactement. Et, et certaines banques sont bien pires que d'autres. Le Crédit Mutuel, ça passe encore, c'est un peu à niveau passable. Mais la Société Générale, c'est peut-être la pire dans ce domaine. Et on peut également citer sur le banc des mauvais élèves, la BNP, le LCL et le Crédit Agricole. C'est elles qui financent des projets qui sont largement controversés et qui ont des impacts très lourds sur le climat.
Tu entends quoi par projet controversé ?
Alors, on parle par exemple de financement des sociétés et de projets qui exploitent encore des énergies fossiles à des fins purement financières, sans trop se soucier de l'impact que ça pourrait avoir sur l'environnement. Par énergie fossile, on entend notamment l'exploitation du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Notons tout de même que certaines banques ont récemment fait évoluer leur position sous la pression populaire et citoyenne. Et c'est ce que nous explique Lucie Pinson au micro de Vincent Versa, le youtubeur de Partager c'est sympa.
Alors, quelle est la bonne nouvelle que tu viens nous annoncer ?
Alors aujourd'hui, BNP vient d'annoncer qu'elle ne financera plus les sables bitumineux et les gaz de schiste ou même les forages en Arctique. Et ça comprend tous les projets donc d'exploration, de transport, de production et même d'exportation.
Donc en fait, la BNP a été la première banque française à accepter de faire un petit pas en arrière en renonçant de financer du coup la dangereuse exploitation de certaines énergies fossiles. Et c'est déjà un élément notable. Disons que sous leur impulsion, des projets de financement de méga mines de charbon qui ont été abandonnés, comme par exemple celle qui menaçait la grande barrière de corail en Australie. Et c'est déjà une bonne chose, mais il y a encore pas mal de boulot, notamment avec la Société Générale qui met beaucoup de mauvaise volonté à faire les efforts nécessaires pour le climat.
Donc en fait, la Société Générale, elle, elle a encore les mains sales.
Et oui, malgré sa communication édulcorée, malgré son relatif soutien au développement de l'économie verte, c'est la banque qui cristallise le plus de critiques en France, car elle continue de financer des projets qui ne sont plus défendus que par quelques businessmen peu scrupuleux et d'obscurs climato-sceptiques. Donc c'est la première banque au monde à financer les nouvelles infrastructures, c'est pas facile à dire, d'exportation de GNL. Donc le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié, que ce soit en Amérique du Nord et notamment avec l'emblématique mais très controversé projet d'exportation Rio Grande LNG au Texas.
Mais quand tu dis gaz naturel, pourtant ça sonne bien, nature, tout ça.
Bah ouais, c'est précisément ce que la Société Générale voudrait nous faire croire. Sauf qu'en fait, ce gaz est bel et bien une énergie fossile. Il produit certes moins de CO2 que le charbon, mais voilà, c'est 95% de méthane et c'est impossible de l'exploiter sans au final que son bilan carbone soit pire que celui du charbon. Donc, contrairement à la BNP Paribas qui a annoncé stopper son soutien à ce genre de projet, la Société Générale, elle persiste et elle signe avec son soutien à l'expansion du secteur gazier et notamment le gaz de schiste, qui est interdit en France.
Et si on veut en savoir plus à ce sujet, on fait comment ?
Eh bien, pour en savoir plus, je vous invite à lire la lettre ouverte du 13 mars dernier que l'Association des Amis de la Terre a adressée à la Société Générale et au rapport complet qu'ils ont réalisé à ce sujet qui s'intitule « Société Générale, plein gaz sur les fossiles ». Voilà.
Merci Anto. Il y a un autre aspect de l'impact des banques sur le climat, c'est la fraude fiscale. Et ça, on va en parler avec Luc.
Donc le slogan qu'on répète souvent, c'est...
L'argent pour le climat existe, il est dans les paradis fiscaux.
Oui, ben les riches deviennent de plus en plus riches, on le sait, c'est triste, mais bon, c'est pas ça qui va tuer la planète.
Bon, en quelque sorte, si. Parce que l'argent qui part dans les paradis fiscaux, c'est effectivement en partie de l'argent qui échappe à l'impôt et est ensuite pour partie redistribué aux actionnaires, mais qui surtout ne sert pas à financer ni nos services publics, ni l'économie, ni la transition écologique, alors qu'il est dû et payé par les entreprises et citoyens qui n'ont pas les moyens de se faire payer les services d'avocats fiscalistes.
Bah, je comprends bien, mais du coup, on pourrait voter une loi pour qu'on ait tous et toutes accès à un avocat fiscaliste ?
Rien qu'en France, en comptant seulement l'évasion fiscale des entreprises et particuliers, c'est 80 milliards d'euros minimum, des chiffres validés par le gouvernement en 2013, soit la dette française qui part chaque année au soleil.
Et c'est de viser ce que j'ai appelé une nouvelle prospérité française. C'est-à-dire une prospérité qui ne soit pas bâtie sur toujours plus de dépenses publiques, parce que ça, c'est facile. Mais au bout du compte, vous creusez la dette... Et c'est les générations suivantes qui payent.
En fait, ce serait surtout aux fraudeurs de payer. Mais c'est aussi un autre aspect. Une étude suédoise de 2018 fait la corrélation entre les paradis fiscaux et le financement de projets nuisant à l'environnement. L'étude, très bien détaillée sur reporter.net, s'attache à deux ressources essentielles de notre environnement terrestre, les océans et la forêt amazonienne. Par exemple, les chercheurs montrent que parmi les capitaux étrangers investis dans des projets liés à la déforestation, 68% proviennent de paradis fiscaux.
Mais c'est quoi l'intérêt d'aller s'embêter à faire se balader l'argent au soleil, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est de faire de l'argent.
L'argent, certes, mais pour avoir les mains libres, être crédible et vendeur auprès des particuliers ou des États, les grandes multinationales comme Total ou Cargill pour l'agro-industrie, doivent soigner leur image. Et même si cela rapporte beaucoup, les projets d'énergie fossile sont perçus comme négatifs.
Né en 2000, BNP Paribas est une marque jeune mais riche d'une histoire bicentenaire. Fidèle à nos valeurs, nous agissons en acteurs engagés et responsables.
C'est alors un moyen de financement opaque de projets environnementicides, comme la pêche illicite, les plantations de palmiers et donc la déforestation de régions entières de l'Amazonie. On peut difficilement savoir qui investit quoi, et cela permet aux entreprises de communiquer sur leurs investissements verts de façade en négligeant leurs investissements marron caca. La BNP se vante de ses 6 milliards d'investissements dans les énergies renouvelables entre 2004 et 2014, sans préciser que dans le même temps, c'est 52 milliards d'euros qui sont allés aux énergies fossiles. Les ressources naturelles sont donc exploitées à bas coût par de grandes multinationales. Sur ces activités, les pays ne récupèrent donc aucun impôt et donc se font ratatiner leur nature sans pouvoir faire marcher leurs hôpitaux et leurs écoles. Et du fait de l'opacité des financements, ils ne peuvent aussi pas réguler ces activités et donc gérer les écosystèmes. Est-ce qu'on peut conclure sur des choses positives et réalisables par chacun des petits citoyens que nous sommes ? Fred, micro jaune.
Oui, en conclusion, Alors, les banques sont puissantes, on l'a vu, mais elles sont, ça peut paraître même écrasant, mais il n'y a vraiment rien d'inéluctable. On l'a vu tout à l'heure, il y a des actions militantes qui ont permis, par exemple, de faire reculer la BNP Paribas sur ses investissements dans les énergies fossiles en Amérique du Nord. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aussi militer pour changer les choses et agir, il y a des tas d'organisations qui peuvent vous accueillir, comme, bien sûr, Alternatiba et à ANV COP21, mais aussi les Amis de la Terre, ATTAC, Greenpeace, voilà, n'hésitez pas à les contacter. Et puis si vous disposez d'un compte dans les banques que nous avons citées, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de partir, c'est de changer et d'aller voir ailleurs. Il y a des alternatives, il y en a une en particulier qui est la NEF, qui ne permet pas encore d'avoir de compte courant, sauf pour les professionnels, mais vous pouvez déjà y ouvrir un compte d'épargne. Et si vous avez absolument besoin d'une carte bleue, il existe le Crédit Coopératif, il y a une agence à Nantes, qui est quand même une banque nettement plus éthique que tous les gros mastodontes dont nous avons parlé.
Merci Fred pour cette conclusion positive.
On passe à la rubrique Le climat et moi et moi et moi.
Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 41 ans, je suis chef d'entreprise et je suis à l'initiative d'un premier rassemblement le 2 septembre et ensuite je me suis regroupé avec les autres citoyens qui avaient envie d'organiser la marche du 8 septembre. En fait, ce qui a provoqué cette première initiative, c'est mon inaction que je pensais possible jusqu'au moment où je croyais encore dans nos institutions et dans les politiques et leur capacité à mettre des choses en place. La nomination de Nicolas Hulot était, me semble-t-il, une bonne chose. Et en fait, sa démission a complètement déclenché chez moi une colère noire de me dire « Ok, on peut pas compter sur eux, c'est pas possible. » Donc soit on les astreint à le faire, soit on se débrouille. Ils n'ont pas pris conscience de l'enjeu et de l'urgence de l'enjeu. Voilà. Ils restent sur des modèles acquis, anciens, profitables pour eux, mais ils n'ont absolument pas compris. Et pourtant, je suis chef d'entreprise, on ne peut plus consumériste à la base, mais Hulot a dit un truc très simple, il a dit « Où sont mes troupes ?» Ça m'a beaucoup interpellé personnellement en me disant « Putain, mais il a raison. » En fait, on se laisse tous porter par le système, en étant dans nos schémas culturels depuis le plus jeune âge, et on ne fait rien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut exiger de ces gens-là si nous-mêmes, on n'est pas prêts à changer notre mode de vie? Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, depuis ce jour-là, je commence à changer des choses de manière assez radicale dans ma vie. Aujourd'hui, moi, j'éduque des enfants qui ont 7, 10 et 13 ans. Si je les éduque dans un mode hyper consumériste, ils vont être complètement paumés dans le monde qui les attend, c'est sûr et certain. Mes attentes, mes espoirs par rapport à ce qui a été initié, c'est d'abord que ça puisse durer ce mouvement, s'amplifier. Donc prochaine marche, c'est le 13 octobre à Nantes et dans d'autres villes en France. Et puis que continuent à descendre dans la rue des citoyens qui n'ont pas l'habitude justement de se manifester. Parce que c'est ça qui était assez formidable sur les deux premiers rassemblements, c'est qu'on avait plein de gens qui ne sont jamais descendus dans la rue. Donc il y a un truc qui se passe. Et c'est ça aussi qu'on envoie comme message aux politiques. C'est pas que vos détracteurs, ce sont aussi vos électeurs. Et le message aussi, c'est de dire on va tous se prendre en main pour changer un peu nos modes de vie. Donc c'est aussi un message aux entreprises sur leur façon de produire, sur la façon de notre manière de consommer va changer.
Je m'appelle Élodie et j'ai 33 ans. Les éléments qui ont déclenché le fait que je milite pour le climat ont été un ras-le-bol des scandales sanitaires. Les maladies que peuvent avoir les agriculteurs, ayant une famille d'agriculteurs. On est complètement déconnecté de comment notre nourriture est produite. J'ai voyagé pendant pas mal de temps, et donc j'ai passé entre autres 3 mois au Togo. Et au début, j'étais complètement scandalisée par le fait que les gens jetaient leurs déchets derrière leur maison. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, mais si nous on faisait pareil, on n'aurait pas du tout le même tas. » Au final, on jette et on ne sait plus ce qu'on mange. Donc ça m'énerve. Mon engagement militant concret pour le climat en ce moment, donc ça a débuté où je me suis investie dans Alternatiba Nantes. J'ai participé à l'organisation de l'accueil du tour et du coup du village des alternatives de Nantes le 1er juillet. Mais aussi je lâche pas le tour Alternatiba puisque le 6 et 7 octobre à Bayonne aura lieu l'arrivée du tour Alternatiba avec le grand village des alternatives où on attend 30 000 personnes. Et du coup je me suis mise dans l'organisation de ce village. Concrètement, pour l'organisation de ce village, je suis la responsable de l'hébergement militant. Aussi des conférenciers, des intervenants et des journalistes. Le Tour Alternativa, l'objectif c'était entre autres de mettre en avant les alternatives locales qui existent pour faire face au dérèglement climatique. Et j'ai passé un mois entouré de gens qui font quelque chose pour le climat. C'était rempli d'énergie positive et j'en suis ressortie complètement convaincue qu'on peut y arriver. Et le deuxième bon souvenir, c'est quand on a fait une action non violente. L'objectif, c'était de nettoyer la Société Générale pour dénoncer ses financements d'exploitation des gaz de schiste. Et dans l'agence, il y avait une cliente qui était là face à son conseiller. Et au bout d'un moment, elle nous a posé la question de comment faire pour changer de banque et si on pouvait lui donner des conseils. Et le conseiller qui était tout sourire, ça n'avait pas l'air de le déranger en face. Donc c'est vraiment un chouette moment, parce qu'on aura convaincu au moins une personne de changer de banque. Je m'engage parce que c'est maintenant qu'il faut changer. On a un intervalle qui est de 5 ans pour les plus pessimistes et 10 ans pour les plus optimistes. Parce qu'en fait, si on ne change rien, c'est l'effondrement. Donc là, on a une dernière fenêtre pour virer. Et c'est maintenant.
Si vous souhaitez plus d'informations sur tous les sujets dont on vous a parlé aujourd'hui, on vous renvoie déjà vers le site de JetFM, vers le site d'Alternativa Nantes et sur nos pages Facebook, Twitter d'Alternativa Nantes et du GIGNV. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.